Et maintenant, place au prix Goncourt 2019, Jean-Paul Dubois. Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. C'est son très bon roman, publié aux éditions de l'Olivier, 7h39 sur France Culture.
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner.
Bonjour Jean-Paul Dubois.
Bonjour.
Si vous voulez prendre une pastille à l'amande, vous pouvez la prendre.
Toujours un Fisherman.
C'est votre façon à vous, en fait, de fêter le Goncourt, vous prenez une pastille à la menthe.
C'est une façon bien modeste. Hein, quand même.
Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Votre roman aux éditions de l'Olivier a donc obtenu le prix Goncourt, et j'imagine que c'est, je ne sais pas moi, une forme d'aboutissement pour le romancier que vous êtes.
C'est un cadeau fait par un jury qui a bien voulu choisir ce livre, mais il n'y a pas d'aboutissement. La vie, il n'y a jamais un aboutissement. Le seul aboutissement que je connaisse à la vie, il est malheureusement très triste. Ça, c'est une étape, c'est un moment beaucoup plus heureux que d'autres, mais ça continue, la vie continue de la même façon, j'espère.
J'ai lu que vous aviez décidé de devenir romancier pour être libre, Jean-Paul Dubois, c'est vrai?
Ben oui, c'est-à-dire j'ai fait le décompte de ce que prenaient les métiers en général dans une vie, si on additionne le sommeil, le temps de transport, le temps de travail, le retour, les choses obligatoires à faire dans une vie, je me suis aperçu qu'on me laissait à peu près même pas le quart d'une journée pour moi. C'est dérisoire, même pas ce que je dis, le quart d'une journée, le cinquième d'une journée. Et je me suis dit, gamin, c'est pas possible. L'imminence existe, la mort peut arriver à chaque instant. Le jeu s'arrêtait, donc je vais calculer quels sont les métiers les moins voraces. Alors il y avait le journalisme, dans tout ce que j'ai essayé, le journalisme qui est un métier relativement cool, qui laisse pas mal de temps de libre si on sait se débrouiller. Et après, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a de plus cool que le journalisme? Il y a les livres. Et je me suis dit, voilà, ça c'est un métier parfait. Je sais le faire parce qu'il n'y a pas de diplôme requis. C'est un travail qui s'apprend comme ça. Et je me suis mis à faire des livres en ayant toujours l'idée d'acheter mon temps, de racheter mon temps. Que personne d'autre en soit propriétaire que moi. Non qu'il soit précieux, mais j'entends le gaspiller à ma façon, comme j'ai envie de le faire. Donc je me suis mis à écrire des livres, qui est une activité plutôt sympathique, et qui surtout, après, vous libère une vie pour faire tout un tas de choses qui valent la peine.
Mais alors, pour autant, et dans votre roman « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon », Paul Hansen, le personnage principal, est en prison, une cellule qu'il partage avec un Hells Angels. Donc, votre liberté a été d'essayer d'envisager ce que cela faisait d'être justement emprisonné 2 ans pour une raison qu'on ne comprend pas immédiatement et qu'on apprend uniquement à la fin de votre roman, Jean-Paul Dubois.
Je vais peut-être vous décevoir, mais moi je pense que dans le cas du narrateur, le fait d'être en prison est une forme de liberté incroyable. Parce que c'est dans la prison que vous vous autorisez... D'abord, vous avez le temps de réfléchir à tout un tas de choses. Je dis bien dans le cas du narrateur. Je parle pas d'un type de toute la misère qu'il peut y avoir dans les prisons. Là, c'est presque un cas de luxe. Parce que c'est quand même un type que rien ne prédestine à la prison. Donc ces 2 années vont lui permettre de reconsidérer le monde, de reconsidérer sa vie, de reconsidérer ses souvenirs, de vivre avec ses morts, de vivre ce passé, de comprendre tout un tas de choses. Et c'est une forme d'évasion de la véritable vie, dans mon idée. C'est-à-dire que souvent, quand ça va pas, je me dis, putain, si j'étais en tôle ou si j'étais dans l'hôpital psychiatrique, je remettrai tout d'équerre, quoi. J'ai l'impression que, pour un temps, bien sûr, et sans faire le malin, c'est un moment où les idées doivent se remettre en place, quoi.
Et est-ce que vous voudriez partager votre cellule avec un Hells Angels? Non, si je dis ça, c'est parce que, toujours dans votre roman, ce personnage, Paul Hansen, qui a effectivement, a priori, on comprend pas très bien ce qu'il fait en prison, le Hells Angels, on comprend mieux. Est-ce que c'est un compagnon de cellule qui est, d'après vous, enviable?
Pour moi, oui, mais je le recommanderais pas à n'importe qui. Mais c'est un type qui a une vision du monde extrêmement simple, qui tourne autour d'éléments symboliques comme la moto, qui est atteint de phobie capillaire, qui s'évanouit quand on lui coupe les cheveux. C'est un mélange de contraires, c'est un type brutal, rustre et à la fois... qui s'habille endimanché quand sa mère vient lui rendre visite. Donc c'est quelqu'un d'éminemment touchant. Moi, 2 ans avec lui, je préfère un type comme ça. En plus, comme c'est un homme et demi et que la prison, l'univers carcéral est un truc assez rugueux, vivre avec un homme et demi vous préserve d'un certain nombre de choses, quoi.
Et il a une passion pour les motos, vous dites, alors plus précisément pour les Harley Davidson et pour les Fat Boys, qui sont un type d'Harley ouais. Davidson, pour une forme d'amour de la liberté, si on considère, comme on peut le considérer à mon avis assez aisément, que les motos et même les voitures peuvent être un instrument de liberté, Jean-Paul Dubois.
Non, je pense que c'est sa culture, que c'est. Mais il aime ça en tant qu'objet, comme un enfant peut aimer un objet, parce qu'il est, il a des côtés assez puérils, ce partenaire de cellule. Et la moto, c'est une forme aboutie de la vie pour lui.
Mais votre livre est parsemé de références automobiles, mécaniques. Ça va de la DS19 à la NSURO 80. Alors, on va pas embêter les auditeurs. Alors,
vous avez tort parce que c'est intéressant.
Alors, moi, j'aime beaucoup les NSURO 80 puisque, alors, on va les embêter en leur disant, et là, ils vont apprendre quelque chose, que ce sont des voitures à moteur rotatif.
Inventées par Monsieur Wankel. Qui avait la particularité d'être à l'époque totalement novatrice, mais qui ont malheureusement causé la perte de NSU, qui a vu sa voiture disparaître. Mais c'était une idée du monde moderne, voilà.
Mais justement dans ce livre, comme il est question d'échecs, puisque Paul Hansen, votre personnage principal, est un homme qui échoue de différentes manières, il échoue aussi en prison, et les deux voitures dont vous parlez principalement, la DS19, la première est une voiture qui va échouer sur un arbre, celle-ci, la deuxième est une voiture qui ne marche pas, cette NSU RO 80, et donc c'est une métaphore de la modernité qui ne marche pas ou qui se termine mal, puisque...
Je pense que tout se termine mal. Tout ce qui est mécanique se termine mal, obligatoirement. Et... les personnages qui traversent le livre finissent à peu près de la même façon que les voitures. C'est-à-dire, il y a une symétrie entre les choses et les hommes. Il y a un cycle. Et ce cycle est malheureusement toujours défavorable aux hommes comme aux machines. Moi, j'aime bien ce côté-là, quoi. Le côté, une voiture, ça n'a aucun intérêt. Mais une voiture, à partir du moment où on lui prête des sentiments, des valeurs, des innovations, des trucs comme ça, c'est intéressant. Il y a l'histoire aussi des Pinto dans le livre.
Alors, il faut rappeler, pardon, en quoi les Ford Pinto ont été un scandale particulier.
Ben parce qu'en cas de choc, elles prenaient feu. Voilà. Et le fabricant, qui était au courant de ça, a pendant 5 ans calculé. Sur une étude interne, que ça coûtait moins cher de dédommager les familles des victimes que de refaire toute la chaîne pour changer le positionnement du réservoir arrière de la Pinto.
La tôle était trop mince, voilà. Elle explosait en cas de choc, et cette Pinto, vous l'utilisez dans votre roman « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon » comme une sorte de métaphore du capitalisme le plus cynique, parce que votre personnage principal, Paul Hansen, est superintendant d'un immeuble, grand immeuble d'habitation avec une piscine. Et c'est un homme bon. Et cet homme bon est un jour confronté à un administrateur extrêmement cynique qui va lui rendre la vie impossible, Jean-Paul Dubois.
Oh, je ne sais pas qu'il n'est pas vraiment cynique. C'est un administrateur du monde moderne, quoi, qui rationalise, qui n'a rien à faire de... des sentiments qui peuvent se créer à l'intérieur d'un immeuble, des relations humaines tissées sur le temps, sur la longueur, et lui va rationaliser. C'est un cost killer, ce mec, c'est une espèce qui émerge pas d'un capitalisme forcené, mais d'un capitalisme tout court. À un moment donné, le capitalisme, il va vouloir rationaliser les coûts. C'est dans son essence, c'est dans sa nature. Donc, il y a un salopard qui arrive et qui va couper des têtes, couper des vies, couper des habitudes, couper des relations humaines, parce que ça ne sert à rien et que ça coûte cher et que dans un immeuble, finalement, on n'a pas besoin de ça. Et c'est la fin d'un monde qui va basculer et la naissance d'un autre qui va dérégler tous les liens sociaux qu'il y avait à l'intérieur de ce petit immeuble de 68 appartements.
Oui, et c'est d'ailleurs juste la phrase que vous venez de dire, elle renvoie à la phrase de Marx sur l'eau glacée du calcul égoïste. On a l'impression que
exactement.
Cet homme est confronté à sa piscine. Le superintendant a une sorte de vrai problème dans la vie, c'est sa piscine. Et alors même qu'il se donne énormément de mal pour que la chimie de l'eau soit respectée, eh bien, cet administrateur va tout mettre par terre.
Mais il faut savoir que les administrateurs là, de ce genre d'immeuble, dans leur contrat, ont très souvent en Amérique du Nord l'interdiction de se baigner dans leur propre piscine, alors que c'est leur eau. C'est une eau commune, c'est une eau qui appartient à l'immeuble, mais tout l'immeuble a le droit de se baigner, sauf eux. Parfois, c'est pas dans tous les cas, mais ça veut dire que l'homme qui travaille, qui fait son eau, comme on fait son pain, lui n'a pas le droit de pénétrer dans cette eau. Ce sont des choses qui ne sont pas acceptables. Ça. C'est une forme d'inhumanité sociale qu'on vit tous les jours, mais qui n'est pas acceptable. C'est-à-dire qu'il y a des règles violentes, absurdes, méprisantes, où des gens qui font des trucs formidables se voient exclus de leur propre monde. Voilà, au prétexte qu'ils n'ont pas eu le capital suffisant pour s'acheter un immeuble et voter des lois qui vont faire chier un administrateur. Et cette façon de se révolter, ce moment de révolte, je trouve que c'est un truc infiniment sain et normal. Il n'y a rien de...
C'est politique.
Moi, je pense que toutes les histoires que j'ai faites, très modestement, ont une position politique dans la mesure où c'est comme Godard, on choisit son point de vue. Moi, dans l'histoire que je raconte, quand je suis le narrateur est toujours le type qui n'a pas de pouvoir, qui n'en veut pas, mais qui supporte pas que les autres en aient sur lui. Voilà. Donc on se place toujours du côté des gens qui subissent quelque chose. Le problème est de savoir comment on va en sortir, quelle méthode on va utiliser pour en sortir et jusqu'où on va aller. Et moi, je me place toujours de ce point de vue-là. Alors là, oui, c'est politique et je choisis mon camp. Comme Ken Loach, je ne suis pas le Ken Loach de la littérature, loin de là, mais les films de Ken Loach sont des films qui sont formidables et qui sont politiques et il choisit son camp. Et moi, ça ne me gêne pas de le dire. C'est un truc où je me sens tout à fait à l'aise. Ouais. Vous savez que cet homme existe en plus. Hein.
Oui, parce qu'en fait, vous l'avez rencontré à Montréal, puisque l'action...
Je l'ai rencontré à Montréal. C'est l'administrateur... qui a sauvé la vie de ma belle-mère, qui était malade à l'époque, et qui allait dans les rues le soir à 22h ou 23h par des températures de moins de 30, et qui l'a ramenée.
Donc, cette dame que vous décrivez dans.
Et ce monsieur, je lui ai demandé l'autorisation de m'inspirer des moments de sa vie, comme ça. Et vous pouvez pas savoir le plaisir que ça lui a fait. Simplement parce que je lui ai dit, voilà, est-ce que tu m'autorises à raconter ces moments-là, qui sont des moments inoubliables pour moi, parce qu'il y en a plein d'autres. Tout ce qui a trait à l'aide, à la communauté d'aide dans l'immeuble, c'est un truc qu'il fait, qu'il est, tout est vrai. C'est pas une image, c'est une réalité, ça. Mais ces gens arrivent au fil d'un nombre d'efforts colossaux à s'aider, à s'entraider, à cohabiter. Et arrive tout d'un coup une nouvelle mode sociale. Et deux ou trois types arrivent à foutre cette harmonie en l'air. Et je trouve ça infiniment dur, quoi, infiniment inacceptable.
Et la prison, dans tout cela, la manière dont vous expliquez aussi à quel point elle digère les hommes.
C'est une horreur, c'est un truc. Moi, j'ai été dans des prisons comme ça, dans des prisons nord-américaines, c'est monstrueux, quoi. C'est des trucs. Les prisons françaises ne veulent pas mieux, c'est pas ça, mais vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi, là, physiquement. C'est même pas l'enfermement, c'est plus que ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas comment vous dire. Je veux pas que vous l'interprétiez mal, mais je ressens la même chose quand je vais dans un centre de SPA, où vous avez tous ces chiens qui sont... Je fais pas aucune comparaison entre les hommes et les chiens, mais vous sentez qu'il y a du malheur là-dedans, qu'il y a une douleur, une souffrance, c'est palpable, c'est un truc... Il y a l'odeur, il y a le bruit, il y a la tension, il y a quelque chose qui n'est pas normal, qu'on peut pas vivre comme ça. Et dans la position... J'ai essayé que ces deux hommes, justement, à l'intérieur de ce truc qui est infect, arrivent à recréer, à se fabriquer un petit monde à eux, où l'un coupe les cheveux à l'autre, où l'un défèque devant lui, parce qu'on ne peut pas faire autrement, et qu'on va essayer de faire ça de façon humaine, aussi impossible que ça puisse paraître. On va chier l'un devant l'autre, tous les jours, pendant 2 ans. C'est impensable. Eh ben, voilà. Ils sont arrivés à créer suffisamment d'humanité pour fabriquer une tolérance, pour accepter des moments comme ça.
Et puis, il y a les morts qui occupent une place extrêmement importante dans Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Le livre qui vaut le prix Goncourt, Jean-Paul Dubois, il y a quasiment plus de présence des morts que des vivants, parfois.
Comme dans la vie. Comme dans la vie, c'est pareil. Moi, je vis avec beaucoup de morts, parce que le souvenir est là, parce que c'est comme ça. Je pense que les morts que je porte en moi ou avec lesquels je vis, ils me sont indispensables, quoi. Ils me fabriquent. Ils m'ont fabriqué, ils me fabriquent encore. C'est pas des mots en l'air, ça. C'est des trucs vrais. Je vis avec eux. Je vis avec la montre mon père.
Non, mais
voilà. Elle est là. J'en ai une à moi. Et quand je fais un truc important, je mets sa montre. Même si j'étais pas d'accord avec mon père, si on s'est engueulé toute une vie, je sais ce que je dois. Et c'est capital. Donc les morts, moi, je fais pas une grosse différence entre les vivants et les morts. Je suis jamais allé sur le site. Je suis dû aller une fois sur la tombe de mon père. Ça n'a aucune importance. Mon père, il est dans mon bureau. J'ai sa caméra Bayer Bolex 16 mm est à côté de moi. Elle me quitte pas. J'ai sa montre. J'ai sa caisse à outils. J'ai tout. Mon père, il vit avec moi. Tout le premier étage est plein des livres qu'il a écrits et que j'ai jamais lus, qui sont là. Donc ça fait partie de la vie. Donc je les mets dans les livres parce que
sur quoi il écrivait, votre père?
Je sais pas, des pièces de théâtre, des romans, des trucs comme ça. Il faisait ça pour lui, pour son plaisir. Et voilà, donc je sais que si peut-être j'en fais aujourd'hui, en mon tour, c'est qu'il a eu le... Mon père me récitait les Alexandrins comme pour déconner, comme ça. Charles Leroy, notre empereur Magne, s'est en tout plein resté en Espagne. J'ai entendu ça, je sais pas. Puis ça sortait comme ça, mais sans se prendre au sérieux. Ça faisait partie des conneries qu'il avait envie de me dire à 5 ans ou 6 ans. Et c'est resté dans l'oreille, j'ai jamais oublié. J'ai des trucs... Voilà, donc ça fait... Je peux pas vous expliquer ça, je le porte en moi, quoi. Pour moi, c'est indispensable. Un livre que de vivants, comme la mort est présente d'une manière incroyable dans nos vies, je trouve que ça serait indécent de l'écarter des livres. Comme on écarte les scènes d'amour dans le cinéma américain dans les années 50.
Mais alors c'est très étrange parce qu'il y a tout de vous dans ce livre, et à la fois quand on ne vous connaît pas et qu'on lit les choses sur... Vous qui avez choisi la liberté en écrivant, vous qui avez une technique d'écriture extrêmement réglée, d'après ce que j'ai compris, ouais. On se dit que vous faites les choses de manière très mécanique. Il y a d'immenses écrivains qui faisaient les choses de manière mécanique, hein, mais en fait, pas du tout.
C'est comment vous dire, le fond, et sans faire de mots, et vient de la vase que chacun porte en soi. Moi, je porte la vase à longueur de temps. Et ensuite, la façon dont je travaille est liée à mon ancien métier. C'est-à-dire que quand vous êtes journaliste et que vous êtes tenu d'écrire à heure fixe de longs articles pour le Nouvel Observateur, j'ai fait ça pendant 30 ans, donc il y a des règles. Des règles de travail, vous devez bien écrire, vous devez écrire dans les délais, dans la longueur, respecter la réalité, respecter les faits. Enfin, c'est très contraignant. Un bouquin, c'est du gâteau à côté. Moi, quand je m'assois à mon bureau le 1er mars, je me dis, bon, il faut faire un livre, je sais que le 31, il sera bouclé, parce que j'ai aucune contrainte.
Ça veut dire que le 1er mars prochain, vous allez à nouveau vous asseoir et...
Non, parce que avant, je faisais tous les 1er mars. Parce que je ne pouvais pas vivre suffisamment des livres. Et puis un jour est arrivé, il y a une quinzaine d'années, où j'ai eu un prix qui m'a permis de vivre de mes livres. Et là, j'ai fait tous les 2 ans, puis tous les 3 ans. Parce que la paresse prend le dessus, surtout. Moi, enfin, quand je dis la paresse, je suis hyper actif, je bosse, je travaille, je fais des chantiers, je répare des bagnoles, je tonds, je répare des tondeuses, je soude. Là, j'ai soudé un portail il y a 2 jours. Donc je bosse, c'est pas ça. Mais... C'est moi le patron, quoi. C'est-à-dire, je dis demain je fais ça. Je dis pas demain je fais un livre, il faut que je mette au boulot. Et puis un jour, on sait pas pourquoi, j'ai une histoire qui arrive du tréfonds. Serge, que je connais depuis 15 ans, 20 ans, est remonté du tréfonds. Il est remonté de la piscine, il est remonté de ses tournées d'immeubles, de la neige, il est remonté du froid, il est remonté de sa tournée sur les toits pour les aspirateurs et tout ça. Et je me suis dit, mais ce type est extraordinaire. C'est une vie, c'est une vraie vie, ça. Voilà.
C'est un très beau livre, en tout cas, Jean-Paul Dubois. Merci beaucoup.
Merci à vous.
De nous avoir consacré du temps. Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. C'est aux éditions de l'Olivier. Et ce livre, félicitations, il faut quand même le rappeler encore. Vous avez lu le prix Goncourt.
Je peux pas lutter. Merci.